Vous écoutez Radio Campus Lille, 106,6 FM. Il est 17h, nous retrouvons nos invités de la ferme d'en haut, la Maison Folie de Villeneuve-d'Ascq. Par ordre d'apparition à l'écran, il y aura Pierre Fourny. Bonjour Pierre Fourny.
Bonjour.
Et puis donc, quelqu'un qui travaille peut-être avec vous, non, plus ou moins
Non, là je suis tout seul.
Pas du tout, non. Donc on a Quentin Carnaille qui est artiste plasticien de Villeneuve-d'Ascq, c'est bien ça? Donc voilà, et puis on a Patrick Loubet, un vieil ami. Bonjour Patrick.
Bonjour René. Patrick Louguet.
Patrick Louguet, absolument. Oui. Patrick Louguet, donc de l'association Sous Écran 59, c'est bien ça, hein?
Tout à fait. Mmh. Donc l'organisation de ciné-concerts, mmh, avec comme partenariat depuis 2018 la fabrique culturelle de la ferme d'en haut.
Très bien. Voilà, donc comme régulièrement sur Radio Campus, eh bien, on a le plaisir d'accueillir les gens qui réalisent des projets culturels dans cet espace qui s'appelle la ferme d'en haut, qui est composé de plusieurs lieux, plusieurs espaces où on peut faire des choses très différentes, donc du cinéma, on en parlera tout à l'heure, des expositions, on peut jouer avec les mots, ce sera le cas. Donc aussi, dans le cadre d'un travail réalisé par le collectif Alice, qui est un collectif qui vient de l'Aisne, hein, département, oui, de l'Aisne, et donc qui, avec Pierre Fourny qui le représente, et qui fait tout un travail autour, alors j'allais dire, de l'écriture des mots, des sens des mots, de la confusion entre des parties d'un mot et de l'autre partie d'un autre mot, des assemblages de mots. Est-ce que ça prend son sens? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez nous expliquer un petit peu votre projet que vous allez présenter à la Maison Folie.
Oui. Alors, donc c'est vraiment visuel, donc c'est compliqué un peu à la radio. Mais il y a toute une partie, effectivement, qui est basée sur la forme des lettres. Donc c'est la poésie à demi-mot, c'est les travaux les plus récents, mais ça démarre en fait par du spectacle. Moi je suis metteur en scène, et c'est vraiment, ça vient d'un travail scénique, et d'un travail notamment sur le rébus. Donc il y a des pièces anciennes qui sont présentées, qui sont de pur et simple rébus. Il y en a un d'ailleurs sur l'affiche qui est comme ça, rigolo. C'est un nain qui est en train de porter une affiche sur laquelle il y a marqué quoi. Donc c'est n'importe quoi. Donc les spectateurs seront confrontés à ce type d'énigme, en tout cas pour cette partie de l'exposition, et effectivement qui se termine par ce procédé de coupure des mots en deux, donc qui consiste à découvrir que dans un mot, il y a la moitié de plein d'autres mots. Mmh. Alors, là, il a fallu des outils un peu particuliers pour le mettre en œuvre.
Alors, vous m'avez fait une petite démonstration avant. Donc, effectivement, est-ce qu'il faut une police particulière pour que ça fonctionne?
Ah oui, ça fonctionne sur la graphie des lettres d'une police extrêmement particulière, donc que j'ai baptisée la police coupable, puisqu'elle sert à couper. Oui, ça ne fonctionne que comme ça. C'est une poésie visuelle, c'est des rimes visuelles.
Alors, vous savez que maintenant, quand on dit police coupable, on peut aller en prison direct. Hein.
Oui, mais c'est une police de caractère.
Ah, d'accord, tout va bien alors.
Ce ne sont que des caractères.
Voilà, mais pour déposer la marque, ce n'est pas facile.
Ah oui, non, là par contre, ça a été impossible. C'est atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Voilà, donc là, c'est le plaisir du jeu. Du jeu avec les mots, du jeu avec les graphies, des hasards aussi.
C'est totalement aléatoire, oui, puisque c'est la forme qui va déterminer la liste de mots qui ont une moitié commune. Donc, il n'y a vraiment aucune logique, comme il n'y a pas de logique dans la rime sonore. Hein,
Donc, en fait, quand j'ai proposé un nom, un mot, tout à l'heure, par exemple, j'avais mis « passion », et il y a un certain nombre de mots qui se superposent,
qui contiennent la moitié de poisson.
Qui se coupent et qui s'assemblent.
Ouais.
Et donc, vous m'avez trouvé égérie. Ouais. Alors, c'est vrai que ça n'a aucun sens, rapport, on va dire, de sens, hein, mais la graphie, effectivement, il y a la moitié du haut de égérie qui va avec la moitié du bas de passion.
Voilà. Oui, alors il faut préciser que cette coupure, elle est horizontale. Parce que on a l'habitude, et le cerveau d'ailleurs a l'habitude de couper plutôt verticalement les mots, ce qui est écrit. Là, cette coupure, elle est très, très bizarre, puisqu'elle est horizontale. C'est la moitié, en coupant le mot au centre, horizontalement. Passion contient la moitié du mot gérer. Mais il y a quand même un rapport de sens entre passion et gérer. Le choix n'était pas totalement
arbitraire. Et là, quand je vois René, c'est mon prénom.
Oui.
En majuscule, sans accent, ça se recompose avec rêve.
Oui. Alors, en même temps, au niveau sonore, c'est très, très différent. Mais par contre, il n'y a que la moitié d'une lettre qui change, si on regarde graphiquement.
Oui, c'est vrai. Donc, on est sur 4 lettres, là. Et puis, tout à l'heure, il y avait 7 lettres. Hein, ouais. Donc, à chaque fois, ce sont des correspondances, on va dire, où il faut autant de lettres que du haut et du bas.
Bien sûr. Non.
Ça peut jouer encore autrement.
Il n'y a pas forcément le même nombre de lettres dans les deux mots. C'est vraiment la forme graphique de la moitié du mot qui
d'accord.
compte. Parce que par exemple, avec un M, par le bas, on peut faire 3 lettres.
Ah oui ?
I, F, L, T, I, R, tout
d'accord.
ça, c'est on peut les composer pour...
C'est un aspect architectural en même temps, pratiquement. Il y a un concept, faut trouver l'idée, que ça s'assemble, ça se compose, ça se décompose.
Bon, alors l'idée, elle vient vraiment de la pratique de la construction de décors et la pratique du spectacle. C'est-à-dire que je découpais des images pour les manipuler sur scène, dans des spectacles d'ailleurs où il n'y avait pas d'histoire, pas de verbe et pas de parole. Et il se trouve que les décors que je découpais, c'était dans des affiches de pub, et dans les affiches, il y a des slogans, donc des lettres, des grosses lettres. Et je les ai d'abord manipulées comme des objets, comme des images. Et ça, c'est d'ailleurs de la manipulation d'image purement, puisque quand on coupe un mot, il ne reste plus qu'une espèce d'image abstraite qui va s'accoupler à une autre moitié d'image abstraite.
Quand on dit manipulation, j'aime bien ce terme parce qu'il y a un petit côté manipulation magique.
Alors, il y a ça. En même temps, vous le voyez, les auditeurs ne le voient pas, mais ce n'est pas du tout de la magie, hein, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la moitié de tel mot dans tel autre mot.
Mmh. Mais je veux dire qu'il y a des numéros de magie où on dit « tiens, et là, ça fait ce même étonnement ».
Je pense que sur le cerveau, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'on sait lire et on se fait avoir par le fait que cette correspondance, elle est complètement incongrue. Enfin, normalement, elle ne devrait pas venir au cerveau. Donc, ça fonctionne, je pense, sur les mêmes ressorts que la magie. Ouais.
Donc, moi, j'étais surpris de voir deux mots qui n'avaient a priori pas grand-chose à voir, associés. Est-ce que pour vous, vous anticipez sur ce qui va correspondre à quoi ?
Ben non, pas du tout. C'est ça qui est, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant avec ce procédé, c'est que ça met tout le monde face à tout un tas de possibilités. Enfin, on est dans un vrai processus de création. Tiens, on est face à une liste, il peut y avoir rien du tout d'intéressant. Par exemple, pour Quentin, j'ai essayé de faire un mot en français. En français, ben, il n'y avait vraiment rien dans la liste qui soit... Voilà, alors du coup, je me suis rabattu sur l'anglais. Mais c'est pas gagné d'avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison qui puisse être intéressante forcément. On est tous à la même enseigne face à ces listes proposées. Alors, je précise, oui, il faut vraiment un logiciel. L'esprit humain n'est pas suffisamment prompt pour pouvoir trouver toutes ces combinaisons.
Alors, on peut évidemment faire un jeu de société. Comment on en fait un spectacle ?
Alors, il n'y a même pas à en faire un spectacle, c'est déjà un spectacle. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec vous ici. Si on donne simplement le papier comme ça, on ne comprend pas. Il faut vraiment agir, c'est-à-dire montrer d'abord un mot, puis par une action, montrer que quand on en enlève la moitié, il y en a un autre qui apparaît. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il y a vraiment déjà ce petit papier ne fonctionne que de manière spectaculaire. D'ailleurs, si les deux mots étaient écrits en entier l'un à côté de l'autre, vous ne verriez pas qu'ils contiennent la moitié l'un de l'autre. Parce que notre cerveau, il est fait, il était formaté pour apprendre à lire, donc il voit les signes, mais il ne voit pas du tout les formes. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la durée, qu'il y ait une action pour qu'on puisse comprendre que dans un mot, il y a la moitié d'un autre mot. Donc c'est déjà du spectacle en soi. Et après, on peut, avec le sens... moi, j'avais fait un spectacle qui s'appelait le cirque de mots. Donc les mots étaient les acrobates et je leur faisais faire toutes ces acrobaties sur scène. Mais ça permet de faire aussi des livres animés, des films, des animations sur tablette, etc.
Et donc cette présentation à la Ferme d'en Haut, ça va consister en quoi ?
Ben là, c'est vraiment une exposition, mais effectivement, devant chaque pièce, le visiteur, il doit agir, soit manipuler un objet pour qu'on aille d'une position à l'autre, soit dans le cas des rébus, il faut quand même qu'il y ait une forme de participation. Il ne suffit pas de regarder l'objet, il faut aussi s'en servir pour comprendre ce que le titre va pouvoir...
Alors c'est vrai que l'affiche le plus simple c'était le n'importe quoi, mais après c'est plus compliqué sur place.
Alors je dirais pas compliqué, c'est vraiment un jeu. Hein. Je pense que c'est ludique. Enfin, pour l'instant j'ai pas vu les gens encore sur cette exposition de la manière dont ils réagissaient, mais non, je pense que franchement c'est rigolo. Ouais.
Donc jusqu'au 15 décembre, à partir du 21 septembre, je sais pas s'il y a un vernissage.
Oui, il y a un vernissage le 20, je crois, à partir de 18h30.
Voilà, donc à la Ferme d'en Haut, Maison Folie de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, j'imagine, c'est gratuit. Hein.
Bien sûr.
Voilà, donc à découvrir le collectif Alice. Si on peut résumer le collectif, il y a qui dedans ?
Alors, c'est varié et variable. On a très longtemps travaillé à deux avec Dominique Soria pendant une vingtaine d'années. Et puis là, en fonction des projets... Il y a d'autres collaborateurs, des comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses. Par exemple, sur les Typos Baldeuses, il y a 7 danseurs et comédiens, comédiennes qui peuvent intervenir.
D'accord. Donc il y a des grands spectacles qui peuvent être réalisés ?
Alors, il y avait des spectacles un peu plus grands, et maintenant, ce ne sont que des spectacles non scéniques, donc plutôt qui vont vers les gens. Alors, soit, par exemple, la semaine dernière, je faisais une performance au Feu Rouge avec un groupe de personnes qui fabriquaient eux-mêmes leur petits poèmes à demi-mots et qui donc les exhibaient pendant le temps du Feu Rouge. Et le tout est filmé et diffusé sur la chaîne d'Alice.
J'imagine aussi que ça peut être sympathique dans les écoles de présenter ça.
On travaille beaucoup effectivement dans les écoles aussi et le procédé est intéressant, on l'a développé aussi dans ce sens-là, les outils en tout cas, dans le cas de la lutte contre l'illettrisme, puisque c'est une manière de retrouver un jeu avec les mots très simples, avec des outils très gratifiants, puisqu'ils permettent de très vite réaliser quelque chose, de l'avoir entre les mains, de pouvoir le montrer. Et on l'utilise aussi dans ce sens-là. Alors pas du tout pour apprendre à lire et à écrire, mais en tout cas pour retrouver du plaisir avec les mots écrits.
Voilà, donc ces mots écrits sont à partir de typographie occidentale, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça fonctionne avec d'autres typographies, d'autres parties du monde ? Je sais que vous avez appris un peu le chinois, donc...
Oui, alors, peut-être que ça m'a... le chinois, effectivement, m'a formé la tête, ou déformé la tête, je ne sais pas. C'est sûr que ça ne fonctionne qu'avec des systèmes alphabétiques, évidemment. En chinois, c'est absolument impossible, puisque il y a tellement de caractères pour trouver quelle forme, en tout cas en le coupant horizontalement, viendrait s'associer à l'autre. Mais cela dit, verticalement, les caractères chinois sont constitués de telle sorte qu'on retrouve des parties à la droite, à la gauche d'un caractère ou à sa droite, qui sont semblables dans plein d'autres caractères. Ce qui est d'ailleurs une manière de les classer et de pouvoir se repérer dans un dictionnaire.
Voilà. Alors, là, on a une écriture horizontale, là, mais on peut imaginer un peu les lettres verticales.
Il y a aussi une police aussi, pour les couper verticalement.
Je pense. Voilà, donc tout est possible. La police coupable, c'est nouveau. Sécable, on va dire, pour ne pas se faire insulter.
Oui, alors c'est pas si nouveau que ça, parce que ça a plus d'une vingtaine d'années. Ouais. On avait déclaré Ferrand-Terre de Noix, donc là où la compagnie Alice est installée, capitale mondiale de la poésie à demi-mots, en 2001 déjà.
Donc Alice, collectif, ça s'écrit A-L-I-S.
A-L-I-S. Hein,
voilà, et Alice, il y a un site web qui s'appelle alice.fr.
Alice Lab.
Alice Lab, voilà. Alice Lab, voilà. Une exploration du langage parfaitement spectaculaire. Voilà, bien, merci donc Pierre Fourny. Et ce collectif donc va être de temps en temps ici en animation ou bien vous restez maintenant dans l'Aisne après le vernissage?
Bah après je vais ailleurs. Je retourne dans l'Aisne et dans d'autres et aussi pour d'autres aventures. On travaille beaucoup dans le sud de la France aussi.
Voilà. Donc là l'exposition c'est jusqu'au 15 décembre mais ça démarre le 21 et vernissage le 20. J'ai bien compris hein?
C'est ça.
Ceux qui ne connaissent pas encore la ferme d'en haut, bien sachez que c'est à Villeneuve-d'Ascq et c'est au 268 rue Jules Guesde. Ça ouvre en général à 15h, je pense. Enfin, je sais pas, il y a des horaires d'ouverture. Vous pouvez regarder le site La Ferme d'en haut, donc sur ça s'écrit La Ferme d'en haut, villeneuve-d'Ascq.fr, voilà. Mais sinon, sur le site de villeneuve-d'Ascq.fr, vous allez bien sûr trouver aussi le lien. Voilà. Alors, on va continuer la présentation de ce qui va se passer dans les prochaines semaines à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq. Alors, un artiste plasticien qui est villeneuvois, qui s'appelle Quentin Carnaille. Donc, Quentin, peut-être présenter un petit peu votre peut-être parcours, projet, style.
Ok, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici déjà. Je pense que je vais m'introduire en écho à ce que Pierre a présenté. Alors si certains mots peuvent en contenir d'autres, moi je m'interroge sur la façon dont certains individus peuvent en contenir d'autres. Et donc là ici pour l'idée de l'exposition, je présente une œuvre qui s'appelle Altérité, et donc qui tente en tout cas de nous emmener dans une histoire où finalement l'individu se construit en écho à son environnement et aux autres, et donc comment l'altérité va nourrir l'individu et constituer son identité. Donc c'est une œuvre que j'ai réalisée avec Dominique Sampiro, le poète Dominique Sampiro, où en fait on a un miroir sans teint, donc dans lequel on se voit, puisque le fond un miroir sans teint qui est collé sur un tableau, et ce tableau a un fond noir, et donc on se voit littéralement dans ce miroir sans teint. Mais en fait, dans le fond, il y a un poème qui a été écrit par Dominique Sampiro, et qui est rétro-éclairé pendant quelques instants, et qui nous parle d'altérité. Un magnifique poème, qui est d'une certaine manière insaisissable, puisqu'en fait, il apparaît pendant, de mémoire, 4 secondes, alors qu'il y a une quarantaine de lignes. Et donc, on est systématiquement en train de découvrir le poème et à nouveau se retrouve face à nous-mêmes, face à son visage, et aussi au visage des autres spectateurs, parce que généralement, on n'est pas seul quand on va dans une exposition. Et donc, c'est une œuvre qui nous parle de la façon dont on va se construire en fonction des gens que l'on rencontre, que l'on côtoie, avec qui on fait sa vie, et de l'environnement dans lequel on vit. Et donc, ça nous incite à se rendre compte à quel point l'autre est précieux et l'autre est constitutif du soi.
Effectivement, l'autre est constitutif du soi, et puis aussi l'ailleurs peut nourrir également.
L'ailleurs peut nourrir, oui. Alors là, on est dans l'imagination, j'imagine que c'est ça ce à quoi vous faites référence. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre... Donc, ça, c'est vraiment l'origine du projet Altérité, que j'ai ensuite développé avec d'autres œuvres. J'en profite aussi pour parler d'une performance qu'on va faire avec Dominique Sampiro pour les Journées du Patrimoine à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Mm-hmm. Justement, Dominique va écrire un texte sur un miroir qu'on va ensuite éclater. C'est-à-dire que ce miroir va se casser en mille morceaux et qui nous parle un peu du visage et de la vérité, au sens où la vérité ne peut pas exister puisqu'elle est forcément la somme de la vérité de chacun. Et donc c'est une relativité d'une possible vérité qui finalement, a priori, ne peut pas exister, ou alors si elle existe, c'est vraiment la somme de toutes les vérités, de chaque individu, de chaque être, vivant de chaque chose qui se trouve dans l'univers. Et en parallèle de ça, j'exposerai trois autres œuvres, textes aussi, qui là parlent de présence. Par exemple, il y a « Il est en moi ». Donc ce sont des mots qui apparaissent successivement derrière un miroir. Et donc on se voit et il y a « Il est en moi ». Qui est ce « il » ? Est-ce que c'est moi-même ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on pense, qui est vivant, mort, quelqu'un qu'on a perdu ? Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'évoquer la façon dont on fait son parcours de vie en tant qu'être humain avec son environnement et les autres.
Évidemment, dans ce cadre, la rencontre ou les rencontres, c'est essentiel ?
C'est décisif, hein, j'en suis vraiment convaincu. Et donc, il faut à la fois y prêter attention et puis se laisser peut-être aussi un peu porter par un maximum de rencontres pour nous enrichir. Mais je pense effectivement qu'elles sont des croisements qui permettent de prendre des routes qui peuvent être potentiellement très différentes.
Alors, la rencontre avec l'heure, mais la rencontre avec les personnes aussi.
Tout à fait. Oui, ça parle des rencontres avec les personnes qui me semblent essentielles et bien plus puissantes qu'une rencontre avec cette œuvre. Mais cette œuvre, elle est là pour nous sensibiliser à ça et pour nous inviter justement peut-être à reconsidérer les rencontres qu'on peut avoir avec d'autres et qui vont nourrir de façon vraiment très très importante, au-delà de ce qu'on peut peut-être imaginer, nos orientations futures.
Alors, on a été privé de l'autre pendant un bon moment avec le Covid. Hein. Est-ce qu'on retrouve l'altérité ? Est-ce qu'on retrouve l'autre, la pensée de l'autre, la discussion, le dialogue et la continuation, on va dire, ou la suite de la co-construction ?
Ça, j'en suis absolument certain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont restés cloîtrés chez eux quand on a eu la possibilité de se retrouver. Donc non, je pense qu'on est une espèce animale qui a essentiellement besoin de contacts, d'échanges, de proximité. Nous, on connaît les cinq sens, mais je pense qu'il y en a, bien d'autres dans la sensibilité qui doivent exister sur des énergies qui se transmettent quand on est à proximité. Donc je pense que c'est essentiel et je pense que tout le monde l'a ressenti bien comme il faut.
Alors, j'imagine que le vernissage à la ferme d'en haut, ce travail présenté sera un moment de rencontre qui peut-être fera bouger des lignes aussi.
Eh bien, c'est d'une certaine manière à la fois l'objectif et en même temps, moi, je souhaite pas changer les lignes des gens, mais en tout cas qu'ils en aient conscience. C'est ça qui me semble important, c'est de se rendre compte à quel point l'autre est important pour la constitution de soi.
Est-ce qu'il y a quelques mots, alors on parlait de mots écrits, mais des mots qui seraient importants par rapport à votre travail, des mots clés ?
Oui, le miroir, l'identité, la notion de temps aussi. Après, j'ai une formation d'architecte, donc dans l'esthétique de mes travaux, il y a quelque chose de très maîtrisé, très orthogonal. Il y a vraiment un soin de la fabrication des œuvres en général. Donc le mot architecture peut passer aussi. Et d'ailleurs, alors j'ai une petite anecdote par exemple, à quel point donc, dans l'altérité il y a effectivement les gens, mais il y a aussi les lieux. Et typiquement, par exemple, je trouvais qu'une belle leçon d'architecture, c'est qu'est-ce qu'un palais de justice ? Un palais de justice, c'est un lieu où quand on arrive, on va arriver devant un énorme perron. Et on a une succession de marches. On arrive devant une énorme porte. Et quand on passe la porte, si on est là pour être jugé, on va passer cette porte et puis on va arriver dans une salle et puis on va avoir 200 personnes de dos qui sont assis, alors que nous, on est debout. Et on se retrouve devant un pupitre, debout, face à des gens qui sont assis, en pyramide, devant soi. Ça, c'est de l'architecture. Et ça conditionne forcément la façon dont on va appréhender le moment. Et on se retrouve dans une situation où on est tout petit, ce qui n'est pas du tout la même situation que si on est les bras croisés dans un canapé à la maison.
Est-ce qu'il y a une dimension poétique de l'architecte ou de l'architecture ?
Alors moi, je me suis rendu compte, du coup, dans mes études, à quel point l'architecture était importante pour conditionner la vie des gens. Et on ne se rend pas bien compte, mais j'avais fait une série qui s'appelle Orientation, où on a un personnage avec un cube en miroir centain sur la tête. Ce cube en miroir centain, il parle de deux choses. Il parle de la standardisation de l'individu et il parle de l'altérité. Donc, on imagine avec ce miroir toutes les informations de l'extérieur qui rentrent dans cet individu. Et en fait, on avait fait une exposition une prise de photographie, notamment à la gare Lille-Europe. Et on se rend même plus compte Mais en fait, on fait tous exactement la même chose quand on a la guerre de l'Europe. On sort du train, on prend l'escalator et on prend tous le même chemin. Et on ne s'en rend même plus compte, en fait. C'est fait de manière très naturelle. Et donc, l'espace de liberté, le chemin déporté sur le côté, la rencontre improbable avec quelqu'un, elle est peut-être moins facile. Et donc, je pense que c'est important d'en prendre conscience et de considérer ça dans l'urbanisme et dans l'architecture.
Qu'est-ce qui serait intéressant en termes d'architecture à Lille et qui ne soit pas du conditionnement pur et dur ?
Là, c'est une belle colle, là. Je ne l'avais pas prévu. Un parc ?
Un parc, ouais. Mais même devant devant la gare, l'île Europe, hein, y a un parc qui est quand même assez joli.
Très sympa.
Donc, on est architecte, on pense aussi paysage, non ?
Oui, tout à fait.
Donc, quelque chose de plutôt rigoureux et fonctionnel, quelque chose où l'être peut s'épanouir quand même.
C'est ça. Mais il y a eu un moment avec Le Corbusier, vraiment l'idée de la machine à habiter qui porte très bien son nom, mais on n'est pas des êtres qui sont faits pour vivre dans des machines. Donc c'est très bien, ça remplit des fonctions qui ont, d'un point de vue sanitaire, été super importantes dans l'histoire de l'architecture. Mais n'oublions pas que chaque individu a besoin de liberté, et donc c'est important de l'intégrer, en tout cas dans les réponses, que ce soit urbanistiques ou architecturales, que tout ne soit pas maîtrisé. Il faut qu'il reste une possible appropriation des espaces. Et typiquement, par exemple, dans les HLM où les bâtiments sont faits de telle sorte que tous les appartements soient absolument identiques, c'est plus difficile d'aller exprimer une singularité si on a du mal à s'approprier son chez-soi déjà. Alors, je pense que c'est quelque chose qui, d'ailleurs, on les détruit maintenant, donc qui prouve que ça n'a pas été une bonne solution, même si d'un point de vue économique, ça répondait à des problématiques d'investissement public qui ont certainement aidé à faire des logements sains. Et bien organisé. Néanmoins, je pense qu'il y a eu des répercussions assez fortes d'un point de vue social.
Je voulais rebondir sur un point cinéma à propos de tous les points qu'a abordé Quentin. Quand il parlait du caractère vertigineux d'un lieu à propos du palais de justice, je pensais au film Le procès d'Orson Welles, sur ce caractère démesuré de l'espace et cette clause du décor, il la joue pleinement de façon démesurée dans Le procès Orson Welles. Simplement rebondir sur un point du point de vue de ce qui m'occupe, le cinéma.
Bien sûr, ouais, très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une époque un peu particulière où, parce que, on va dire, en Occident, il y a eu des grands mouvements architecturaux, enfin des concepts Bauhaus ou autres, etc. Est-ce que actuellement on est plutôt dans un concept uniformiste au niveau international ou au contraire, il y a une richesse qu'on redéveloppe en ce moment ?
Ben moi, je me pose fondamentalement la question de qui nous sommes, où nous allons, etc. Et j'ai un peu l'impression que là, on arrive à ce que fabrique l'humanité dépasse l'homme, dépasse l'individu. C'est assez fabuleux d'une certaine manière parce qu'en fait, il y a peut-être des époques où on pensait un peu maîtriser ce qu'on est en train de faire, où il y avait une ligne qui était tracée parce qu'il y avait des vrais puissants. Là, c'est quand même un bon bordel et j'ai l'impression que personne ne sait vraiment où on va. Ce qui est à la fois inquiétant et peut-être réjouissant aussi, puisque finalement, on redonne le pouvoir à une espèce d'énergie plus partagée. Je sais pas, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Effectivement, avec l'intelligence artificielle, l'informatique, etc., il y a beaucoup de questionnements qui peuvent être inquiétants. L'écologie est un énorme sujet aussi. Donc moi j'ai un peu ce sentiment qu'on est dépassé par ce qu'on fait et peut-être que ça nous remet une certaine échelle par rapport à ce qu'on pense être, notamment quand on se définit comme autre qu'une espèce animale.
Et alors quand on a ce contexte-là, comment on peut se projeter dans des études, par exemple un étudiant qui arrive, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre qui peut s'intégrer à ce que sera le monde de demain ?
Eh ben, j'étais enfant, mais j'aurais du mal à leur répondre s'ils me posaient la question. Je pense qu'il faut s'adapter, en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Il faut s'adapter et puis être très optimiste et faire quelque chose qu'on aime. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis se laisser porter par ses émotions et aller faire quelque chose qui nous anime. C'est le seul moyen de vivre dignement, je pense.
Voilà, donc, Quentin Carnaille, C'est un projet, donc une œuvre unique, c'est ça?
C'est ça. En l'occurrence, ça a été tiré à 5 exemplaires, mais c'est vraiment l'origine de toute une série d'œuvres sur la notion d'altérité qui a suivi.
Bienvenue, Avin Navdask. Et donc, on va maintenant parler cinéma avec donc Patrick Louguet, qui depuis très longtemps s'intéresse au son, à l'image, et donc heureux de te retrouver, Patrick, vraiment.
Tout à fait.
Donc, on était ce dimanche à la présentation de la foire aux associations de Villeneuve-d'Ascq, etc. Et tu avais un stand, comme beaucoup d'associations villeneuvoises, la richesse villeneuvoise, il y a 1000 assos à Villeneuve. Quand même, c'est énorme. Et donc, tu représentes une de ces assos qui s'appelle Sous-écran 59. Alors, parce qu'il y a un écran et il y a ce qu'il y a en dessous. Et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'on met en dessous d'un écran.
Tout à fait. Bon, si tu permets, rappeler que l'association, en fait, je l'ai créée avec des amis villeneuvois et d'anciens étudiants à moi, dont certains j'avais eu en doctorat, lorsque j'ai pris ma retraite en 2015 de Paris, au cinéma. Et donc, j'ai créé cette association en 2018, donc, avec ces amis-là. Et, en 2017, pardon. Et je m'en suis ouvert, effectivement, à la responsable culturelle de la municipalité, Dominique Fern, que je connaissais par ailleurs, et je savais qu'elle avait une grande passion pour le cinéma. J'avais côtoyé à l'occasion dans des séances au Méliès ou à Quino, tu vois.
Elle a des passions pour beaucoup de choses, hein, Dominique.
Et puis donc, et le jazz aussi. Hein, ouais. J'ai eu l'occasion de la côtoyer aussi à Jazz Aveda plusieurs fois. Mais en tant qu'auditrice, spectatrice et en tant qu'amateur éclairé, quoi, si tu veux. Hein.
Alors c'est vrai que toi, le jazz, ça t'intéresse. Enfin, les musiques actuelles, je ne sais pas si on peut dire actuelles, oui. Mais un peu décalées parfois.
Oui, tout à fait. Je suis un aficionado de ce qui se passe à la Malterie et autour du collectif Musix et à l'articulation du free jazz et des musiques expérimentales. Et là, leur programmation est vraiment sensationnelle.
Alors, c'est vrai qu'il fut un temps où, à Radio Campus, il y avait une émission de musique, je ne sais pas si on peut dire bruitiste. Ou...
Tout à fait.
C'est assez étonnant. Hein.
Tout à fait.
Tu te rappelles de ça?
Tout à fait. Il y a des tas de chemins là, de création qui sont sans cesse renouvelés.
Voilà. Donc, comment on passe de l'intérêt, le plaisir d'ensemble, de produire de la musique et l'intérêt de l'auditeur qui peut être un peu en décalage par rapport à la production de musique, voilà.
Oui, alors le paradoxe, ce serait de dire, bon, ben, finalement, devant un écran, s'il y a de la musique, on peut fermer les yeux. Mais effectivement, dès l'instant où on place des musiciens en chair et en os sous l'écran, ce qui est la vocation de Sous-écran 59, alors pour le coup, évidemment, ce sont les... c'est pas « eyes wide shut », comme disait Kubrick, mais c'est les yeux grands ouverts, en effet. Double spectacle, à la fois ce qui passe sur l'écran et ce qui se passe également sur scène, sous l'écran. Et je voudrais, si tu veux bien, corriger un point. Tu disais cinéma, oui, mais cinéma, Villeneuve-d'Ascq, c'est essentiellement le Méliès et le Kino, pour ne pas parler du secteur commercial.
Oui.
La vocation naturelle de la ferme d'en haut, plutôt, c'est de promouvoir justement des spectacles vivants.
Oui.
Et c'est un lieu, en tant que fabrique, qui favorise justement les résidences d'artistes. Et ce qui est vraiment chouette avec cet outil, c'est que les artistes finissent de mettre au point leur spectacle sur scène avant de donner le soir ou en fin de semaine le ciné-concert à la Fabrique culturelle.
Mmh.
Et donc là, on répond vraiment pleinement à la singularité, si tu veux, de la ferme. Il se trouve que Sous-écran accompagné à Kino et collabore, je suis un conseiller artistique aussi du directeur Peter Gostijanovic, que Dominique Fium a présenté, du reste. Et donc depuis 3 ans, on a mis sur pied une collaboration. C'est lui qui organise tout, mais moi je suis conseiller artistique et donc j'interviens un petit peu sur le recrutement d'artistes, etc. Enfin bon. Mm-hmm. Et alors là, pour le coup, le Kino, évidemment, il y a une énorme scène, il y a un piano à queue à demeure, enfin bon, et un écran.
Mm-hmm.
Alors à la ferme d'en haut, justement, un de ses atouts, c'est d'avoir aussi une scène généreuse. C'est aussi un lieu d'expression théâtrale.
Ouais.
Et donc pour le coup, c'est vraiment l'écran qu'il fallait à une association qui faisait la promotion, comme nous le faisons, de ciné-concert.
Voilà. Donc, si je rentre un peu dans le concret, quand on voit un film muet, par exemple, d'accord, muet au départ, autrefois, il y avait des films muets. Hein.
Tout à fait.
Et à partir de là, on pouvait jouer. Moi, je me souviens à Paris d'avoir vu des films avec en dessous l'orchestre, mais qui jouaient et avec le film muet. J'ai vu ça.
Alors, si tu permets, Place de Clichy, il y avait le Gaumont Palace avec une fosse d'orchestre, voilà, 2000 places. Voilà. Et le film que nous allons présenter, L'Inhumaine de Marcel Lherbier, à l'époque, il y avait une partition originale de Darius Milhaud qui malheureusement a été perdue. Et du coup, ça a donné toute liberté à des générations de musiciens et de tous genres musicaux, effectivement, à se laisser porter par le film et à proposer aussi d'autres choix. Ce qu'il faut savoir pour ce film, c'est qu'il y a une cantatrice fictionnelle sur l'écran, mais qu'à l'époque, c'est elle qui a amené la monnaie pour le film. Et donc, quand le film était projeté Place de Clichy, au Gaumont Palace, elle était dans la fosse. On ne la voyait pas, ainsi que l'orchestre. Hein, toute l'histoire du cinéma, c'est, il faut revenir à l'opéra, à Wagner, évidemment. Mm-hmm. Tout part de là, hein, évidemment. Et là, elle est dans la fosse et elle chante en même temps que, si tu veux, elle se double en train de chanter sur l'écran.
D'accord.
Et alors, ça nous rappelle une chose extrêmement amusante, c'est Jean Renoir, Boudu sauvé des eaux. Mmh. Tu connais ce film ?
Oui, bien sûr.
Boudu, c'est un clodo, qui se jette dans la Seine sous les yeux d'un libraire. Le libraire lui sauve l'ami, saute dans l'eau, le récupère et ensuite l'héberge chez lui. Bon, je ne raconte pas toute la suite de l'histoire. Toujours est-il que ça... Michel Simon avait joué au théâtre plus de 2000 fois.
Ah oui.
Et il a amené la monnaie à Jean Renoir en disant « J'en ai vraiment assez de mettre ce film, je veux jouer dans d'autres pièces, je veux jouer dans d'autres films. Et donc, si tu veux bien, Jean, on fait un film ensemble. » Et alors, c'est comme ça que le film a pu être produit grâce à Michel Simon amenant la monnaie à Jean Renoir.
Quelqu'un de particulier, hein, Michel Simon.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais, un caractère.
Tout à fait. Ouf.
Et donc... on peut imaginer un film avec plein d'interprétations musicales possibles, bien sûr. Donc, on le décline en fonction de quoi ?
À telle ancienne
comment on peut respecter l'œuvre quand même ?
Voilà. Alors, à telle ancienne que, si tu veux, simplement, beaucoup d'éditions DVD, tu as des choix, quelquefois, de 3 ou 4 compositions musicales, justement, en fonction de l'historique, de festivals ou de ciné-concerts qui ont été donnés. Mmh. Et donc, dans les éditions DVD, on a quelquefois le choix, si tu veux, de choisir. Et après, on peut être dans la comparaison ou non. Si on veut tout d'un coup être dans un climat, je dirais, plutôt de musique classique, ou si on veut être dans un climat électro, tu vois, ou plutôt jazz, eh bien, on a le choix. Alors, précisément, cette grande liberté, c'est tout le problème des signes visuels à l'écran et des signes sonores. Et quand on fait une composition, il faut se garder de tomber dans ce que Michel Chion appelait l'audiovision. Dans l'audiovision, pardon, qui est un bouquin qu'il a fait, pardon, ce qu'il appelait le Mickey Mousing, c'est-à-dire un synchronisme strict entre les signes sonores et les scènes visuelles. L'an dernier, je ne m'en suis pas privé. Moi, je suis intervenu avec des synthés, avec d'autres musiciens, sur un Jekyll et Hyde. Et à un moment donné, il y a le Jekyll qui donne 3 coups de canne en très gros plan sur la porte. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, on ne s'en prive pas. Mm-hmm. Parce qu'il faut aussi un peu répondre aux attentes du public, qui est un peu friand, souvent, de Mickey Mousing, et qui est passé par la culture de Fantasia, le film de Walt Disney, où pour le coup, on est vraiment là, dans les correspondances strictes entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe, les signes visuels et les mouvements sonores et les mouvements musicaux. Donc là, 3 coups de canne, toc, 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 évidemment. Sinon, c'est le problème de l'indépendance relative. C'est le problème de comment que ça communique alors qu'on a 2 œuvres spécifiques dont l'une s'inspire de l'autre sans être forcément purement illustrative. Mmh. Et ça, c'est la quadrature du cercle pour les compositeurs de musique de films.
Mmh. Alors, une question quand même que je voulais te poser, c'est est-ce que les auteurs du film ou les ayants droit ont leur mot à dire sur le choix qui est fait de la partie musicale ?
Tout à fait, tout à fait. Et les ayants droit sont vigilants là-dessus. De même, nous avons monté Visage d'enfant de Jacques Feder, d'ailleurs, qui a été créé à la ferme d'en haut. Et des ayants droit en Suisse ne veulent pas qu'on en fasse tourner au-delà, quoi. Mmh. En général, on arrive quelquefois à faire un coup, et puis les gens laissent glisser, quoi. Mais on marche sur des œufs souvent.
Ah, oui.
Alors là, évidemment, il y a aussi le domaine public, ce qui est bien pour le patrimoine du cinéma muet, parce que c'est quand même la clause des 70 ans. Et donc là, on a vraiment, vraiment un patrimoine et on peut du coup soit négocier via le CNC avec les ayants droit. Mm-hmm. Bon, là, pour le Robertson en dernier, pour celui qui va être présenté bientôt à Kino, à Elita, il y a 3 éditions DVD et là, il fallait passer par l'éditeur DVD qui avait fait un travail de remasterisation, etc. Mais ils ont accordé l'autorisation. Mais le CNC nous a conduit vers les éditeurs de DVD en disant, nous, il n'y a pas de problème, voyez avec eux. Mm-hmm. C'est compliqué, toutes ces choses-là.
J'imagine. Donc, est-ce que ces films qui sont présentés Je veux dire, il y a eu des films où les gens chantaient en même temps dans les salles. Tu vois ce que je veux dire, ce fameux film-là des années 68, 7, et où les gens reprenaient, ils connaissaient par cœur les paroles, donc il n'y avait plus besoin de son de l'écran. Ils faisaient le son eux-mêmes. Donc ça, c'est quand même des moments.
Et parfois, même de la façon animée, tu vois, il est porté sur l'écran avec le texte de la chanson en dessous, tu vois. Autant du muet et préfiguration du karaoké, tu vois.
Donc, qu'est-ce que tu préfères, avoir un film muet et le nourrir en musique, ou avoir un film déjà au départ avec du son et que tu vas détourner d'une certaine manière?
Déjà, il y a une clause d'éthique et d'esthétique, si tu veux, c'est du côté du parlant. T'as Bernard Herrmann qui fait toutes les musiques d'Hitchcock. La plupart de ses musiques, avec un orchestre sous l'écran d'ailleurs, c'était donné sous la forme de la dernière prise de son, elle était sous la forme d'un ciné-concert, hein. Parce que c'était enregistré en continu sous l'écran, quand Bernard Herrmann était là, dans la fosse, avec donc, mais évidemment, il avait travaillé antécédemment avec une chose, séquence par séquence, etc. Mais le jour de l'enregistrement terminal de la bande-son, c'était en continu du début à la fin.
Donc là, si tu veux bien, on va parler de ce ciné-concert qui s'appelle L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, un film de 1924. Est-ce qu'il y a déjà eu des musiques qui ont été utilisées pour ce film?
Oui, comme je disais, Darius Milhaud avait une commande. D'ailleurs, Claire Lescaut, donc, la cantatrice, avait amené aussi à Milhaud. Enfin, il y avait un bon budget de production. Et donc, Darius Milhaud avait fait une partition qui, malheureusement, a été perdue. Mm-hmm. Et peut-être qu'il y aura le miracle de trouver une fois dans un vide-grenier. Qui sait? Mais en même temps, ça laisse cette liberté, comme je te disais, de pouvoir intervenir sur le son.
Donc, 1924, donc c'était toute une époque, un contexte. C'était quand même bien avant la guerre 39-45. Est-ce qu'il y avait un esprit à ce moment-là qu'on peut restituer en musique?
Alors, on a dit de ce film que c'était le film manifeste de l'art déco, parce que tu as le grand architecte et concepteur de meubles, Mal Stevens, qui intervient. Ah ouais. Tu as Fernand Léger aussi sur des dispositifs mobiles. Il y a des Bugatti, tu vois la modernité des voitures. Ouais. Et en même temps, il y a une préfiguration de la télévision. La télévision est présente dans ce film.
Ah bon?
C'est-à-dire que l'ingénieur fictionnel donne à entendre à Claire Lescaut comment des gens en Afrique reçoivent la transmission d'un de ses opéras. Tu vois, des choses comme ça, beaucoup de modernité.
Bon, voilà, donc ça, c'est, on va dire que c'est le vendredi 6 décembre à 20h à la ferme d'en haut. Est-ce qu'il y a d'autres films que tu vas présenter dans l'année à la ferme d'en haut?
Non, en fait, on défend un budget auprès de la municipalité pour déjà produire le film. Et donc, on est sur l'idée d'un film pour l'an prochain qui serait Ghost de Tokyo, avec trois musiciens, pianiste, violoncelliste et percussionniste.
Voilà. Et donc, tu disais que c'est parfois compliqué de faire tourner après votre, spectacle, dans d'autres lieux ou dans d'autres pays.
Oui, on a déjà eu l'occasion à Ronchin, par exemple, et dans d'autres villes aussi, Hauts-de-France ou ailleurs, mais c'est compliqué, oui. Sinon, il faudrait se mettre sur les rangs aussi des festivals. La configuration des musiciens, pour Ghost de Tokyo, il y a les musiciens auxquels je vais faire affaire ont l'habitude de tourner dans le monde entier et ont un catalogue. Donc là, c'est super. Là, c'est vraiment super parce qu'ils ont beaucoup de souplesse et ils se rendent disponibles, quoi.
Voilà. Donc là, pour ce film, L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, vous êtes combien de musiciens?
Alors, les musiciens autour de Jérémy Ternois, sont trois. Il y a le pianiste et claviériste. Il a aussi des synthés. Il y a aussi un batteur, donc Charles, j'arrive jamais à prononcer son nom, assez compliqué, Duitschever, c'est ça, et Nicolas Mailleux à la contrebasse, et donc création originale de Jérémy Ternois. Donc là, pour le coup, ils s'y sont attelés depuis quelques mois, et il se trouve que Jérémy Ternois a une salle privée de répétition, donc ils ont beaucoup répété chez lui, et du coup, la résidence ne sera que d'une journée, dans la journée même, avec ce qu'on appelle le filage, c'est-à-dire le fait, avant de recevoir le public à 20h, de jouer le film, donc à porte fermée, qui est le filage, donc l'avant-première pour les musiciens uniquement.
Sinon, Patrick, des nouvelles de La Pieuvre, comment ça fonctionne encore? Tu vois cet ensemble de musiciens
Oui, tout à fait, c'est parti du collectif musique, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Tout à fait. Ouais. Alors, moi, ce que je connais, c'est tous les ans un très grand orchestre de musique qui clôt la saison, en mai ou en juin, et où là, ils sont ils ont fait une prestation à l'aéronef, entre autres, mais sinon, Animal Theory, Boulevard Victor Hugo, tous les ans, si tu veux, ça, c'est l'émanation de la pieuvre. Mmh, ils sont entre 20 et 30.
Ouais, c'est ça. Hein. C'est impressionnant, cette façon à la fois de pouvoir être ensemble et aussi de se diviser, de se scinder pour des projets particuliers.
Du reste, Jérémy Ternois, j'ai fait sa connaissance là.
Bah oui.
Très bien.
Bon, bah, merci pour cette présentation, Patrick Louguet. Et puis, on a donné la date. Hein, donc, 6 décembre, 20h à la ferme d'en haut. On va peut-être redonner un petit peu la parole à nos invités pour faire un petit tour de conclusion.
C'est moi Pierre Fourny pour le groupe Alice. Et c'est par rapport à l'exposition au vernissage, surtout j'ai complètement oublié de dire que je ferai une petite performance, un solo des typos baladeuses, le vendredi 20 au soir. Et surtout qu'il y a une machine qui permet à tous les visiteurs de fabriquer eux-mêmes ces petits poèmes de poésie à demi-mot dont j'ai parlé tout à l'heure et de les emporter avec eux.
Voilà, donc ça jusqu'à la fin de l'exposition ?
Oui, absolument, dès le 20 jusqu'au mois de décembre.
Ben parfait. Une dernière conclusion ?
J'ai apprécié à faire des nouvelles rencontres.
Ben, c'est important, voilà, c'est bien d'échanger. On a encore une radio où on peut être à plusieurs.
Et oui, si, quand même, merci échanger. Pour... Exactly.
moi aussi, si tu peux dire un petit
oui,
mot.
Oui, bien sûr.
Oui, j'ai l'opportunité de rencontrer une dame dont le fils était en première en option cinéma au lycée Queneau. Elle a dit qu'elle allait se faire ce relais pour que je puisse présenter une séquence dans ce lycée. Donc, affaire à suivre, j'espère que ça va pouvoir se faire.
Voilà.
De manière à attirer les lycéens de l'enseignement cinéma du lycée Queneau à ce ciné-concert.
Alors, pour info, et j'étais présent, j'ai vu beaucoup de gens à ton stand dimanche, donc ça intéresse.
Je pense que oui, j'ai d'ailleurs signalé qu'il fallait téléphoner une semaine avant ou plus tard, parce qu'évidemment, la jauge à la ferme, c'est un très bel outil, mais la jauge est quand même, c'est bien déjà, hein, est limitée à 120, on espère faire le plein, évidemment. Il ne faudrait pas que des gens non plus se trouvent à ne pas pouvoir entrer.
Voilà. Donc je vais donner
donc il est prudent de réserver.
Ouais. 07 80 56 77 16.
Tout à fait.
Je vais répéter. 07 80 56 77 16. Ben merci à tous.
Merci.
Très belle
merci beaucoup. Merci pour l'accueil.